Eso, eso, mero.
Fréquence Terre, Arnaud Jouve.
Bonjour à tous. Pour continuer notre périple mexicain entamé la semaine dernière sur la question de l'écotourisme, je vous propose cette semaine, toujours sur un reportage d'Alain de Valpo, d'évoquer le thème de la biopiraterie à partir d'une région, du Chiapas, d'une très grande richesse en termes de biodiversité, où des savoir-faire traditionnels ont élaboré au cours des siècles un usage des plantes qui intéresse beaucoup des industriels peu scrupuleux. Un regard sur la biopiraterie qui commence par une visite chez un petit herboriste traditionnel, Don Antonio, qui soigne par ses plantes et ses décoctions la population indigène de la région.
Eh bien, cette dame qui vient de sortir a très souvent envie de boire et d'uriner. Ça, c'est des symptômes de diabète assez classiques, mais elle a aussi des problèmes avec ses nerfs et des insomnies. Donc, dans un premier temps, je vais normaliser les nerfs et ensuite guérir le diabète. C'est le traitement que je lui ai prescrit.
Quelles sont les plantes que vous utilisez pour ce traitement ?
Alors pour les nerfs, c'est une plante qu'on appelle Anxotzil lotomchich. Il y a une autre plante qu'on appelle Floretilla, qui est utile pour les nerfs et les coliques. Pour le diabète, nous avons une plante qui s'appelle T. milagrosa et une autre qui s'appelle Tronodora. Il faut juste du temps, de 20 jours à un mois si c'est difficile de le soigner. Mais en tout cas, au bout d'un mois, tout sera normal. C'est le traitement qu'on donne pour le diabète. C'est meilleur marché que les médicaments de la pharmacie. Et c'est pour cela qu'on tente de récupérer et de fortifier notre savoir ancestral pour soigner comme autant de nos grands-parents, arrière-grands-parents qui vivaient 100 ou 120 ans parce que tout était très naturel.
Ces connaissances retransmises de génération en génération proposent une médecine aujourd'hui parallèle qui fut pendant longtemps la seule alternative pour se soigner, pour traiter les aliments ou les boissons. C'est d'ailleurs une boisson aux vertus de conservation bien connue de ces communautés, le pozol, qui va pour la première fois poser la question de la biopiraterie dans la région.
Mon nom est Raphaël Alarcón Lavín. Je suis un conseiller de l'Association des médecins indigènes du Chiapas et du Conseil de l'État de médecins et sages-femmes dans l'État du Chiapas au Mexique. Le pozol est une boisson que les indigènes mayas du Mexique fabriquent à partir du maïs depuis la nuit des temps. Pour la préparer, il faut faire une pâte de maïs et la laisser reposer, car il y a une enzyme dans le pozol qui permet une longue conservation. Un laboratoire suisse installé aux États-Unis a envoyé une chercheuse au Chiapas, Madame Cañas, pour étudier le pozol. Elle est venue nous voir et nous a dit que sur son ordinateur portable, elle avait l'étude qu'elle avait faite. Mais au cours d'un voyage aux États-Unis, une université lui a volé ses informations. Quand elle s'en est rendue compte, ce laboratoire avait déposé un brevet sur le pozol, sur cette enzyme du pozol qui permet de faire de la conservation pour, par exemple, des produits en conserve, pour que la conservation soit plus longue. Cette enzyme a permis à l'industrie alimentaire de faire des millions de dollars de bénéfices. Mais ici, les indigènes n'ont rien reçu. D'ailleurs, la majorité ne savent même pas que cette enzyme du pozol que nous connaissons bien est sous patente. Ce qui serait juste pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de dépôt de brevet. Nous sommes contre les brevets, contre l'appropriation individuelle de connaissances collectives, comme cette connaissance des peuples indigènes. Parce qu'on ne veut pas reconnaître que la découverte a été faite par des peuples indigènes. Combien coûte le savoir indigène ? Est-ce que cela a une valeur ? Si les entreprises sont prêtes à payer, et si nous entrons dans cette logique commerciale, combien vaut une connaissance indigène ?
Commentaire d'André Aubry, un anthropologue français installé au Chiapas depuis les années 60, sur l'histoire de la selva, la jungle en espagnol.
Il y a eu une colonisation de la selva, qui était prendre la selva comme une mine, une espèce de mine végétale. au point qu'actuellement, ben, il est difficile de trouver les bois précieux parce que c'était complètement écumé. Cependant, en dehors de ça, il y a encore une richesse en diversité végétale énorme pour tout ce qu'on appelle désormais le couloir biologique qui va pratiquement de Chiapas à l'Amazonie. En fait, la prospection s'est faite sans éthique, sans expliquer aux populations locales ce qui se faisait, ou quand c'était expliqué avec des mensonges et des cachotteries. C'est du larcin, et qu'on ne peut pas contrôler. Et si ça revient de façon transgénique, c'est extrêmement grave. Ou si ça revient, mais avec une patente, de telle façon que ça va devenir un délit, et que dans certains cas, c'est un délit de planter ces semences sans passer par le monopole des grandes entreprises, de l'agro-business et de la semence. Il y a un problème qui est celui de la conception de conservation. On en est encore au livre de la jungle. Alors la jungle, merveilleux, etc. Mais les Indiens de l'Inde ne savent pas ce que c'est. Il faut passer ça aux Anglais. Et ils parlent de conservation. C'est le même système que nous avons ici. Et la conservation, c'est une conceptualisation qui n'est pas correcte. La selva, c'est une jungle domestiquée, civilisée. C'est le produit de l'histoire et pas seulement de la nature. Cette diversité végétale, dont les premières manipulations sont attestées depuis les temps préhistoriques, c'est le fait d'un peuple. C'est pas la mine végétale qu'on vide, c'est un aménagement du territoire, une transformation de la jungle en une selva habitable, ce qu'elle a été au temps des Mayas, avec des villes prestigieuses et avec des dizaines de milliers d'habitants.
Intervention de Sylvia Ribeiro, une ancienne journaliste environnementale mexicaine, aujourd'hui chargée de campagne pour l'organisation écologiste internationale ETC Group, dans le cadre d'un documentaire d'Anne Remich intitulé « La nouvelle conquête ».
Ici au Mexique, non seulement il y a une grande diversité naturelle, mais aussi une énorme diversité culturelle. Là où diversité naturelle et culturelle se conjuguent, c'est là où il y a une connaissance indigène sur ces richesses, et c'est cela qui intéresse les entreprises. Le problème, c'est quand des entreprises ou des laboratoires scientifiques s'approprient une partie de cette connaissance et déposent un brevet. Ce qu'ils font, c'est couper ce travail collectif public de 10 000 années pour obtenir des bénéfices pour une entreprise ou un laboratoire. C'est ce que nous appelons la biopiraterie. Ces entreprises cherchent des richesses génétiques qui peuvent avoir une valeur commerciale et qu'ils appellent la bioprospection. Et ça, c'est un marché qui est principalement dominé par quelques grosses entreprises. Même s'il y a beaucoup d'entreprises qui font des recherches, finalement, il n'y en a que 5 ou 6 qui concentrent la majeure partie du marché pharmaceutique et agricole et qui tirent des bénéfices de la biopiraterie. Ces entreprises dominent le marché des semences, le marché agrochimique, le marché pharmaceutique et possèdent la majorité des brevets. Nous appelons ces entreprises des géants génétiques. Non seulement elles possèdent la majorité des brevets, mais aussi la technologie qui leur permet d'utiliser ces richesses, ce que l'on appelle l'ingénierie génétique. Nous ne sommes pas opposés à la recherche, aux travaux de laboratoire, ni même à la collaboration avec des groupes indigènes dans le cadre du développement agricole. Mais nous pensons qu'il ne faut pas que cela se privatise. Si cela vient d'un bien public et si ces richesses appartiennent à l'humanité, alors il faut qu'elles restent le bien de toute l'humanité et non pas la fortune d'une seule entreprise.
Corazón peca y llorona en aras de un tierno amor. No sé si el corazón peca y llorona en aras de un tierno amor, de una linda guajaqueña. que te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad, ay, llorona, por suerte de Dios no viva. Que se haga tu voluntad, ay, llorona, por suerte de Dios no viva. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero te olvidaré nunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero te olvidaré nunca.
Fréquence Terre.
Pour inventorier et breveter les plantes susceptibles d'avoir un intérêt industriel, un programme international, l'ICBG, le groupe international de coopération pour la biodiversité, constitué par divers acteurs nord-américains, prospecte systématiquement toute la planète. Explication d'Anna Valadez, membre du COMPITCH, le conseil des organisations de médecins traditionnels et des sages-femmes indigènes du Chiapas.
L'ICBG est un programme de recherche de plantes dans toutes les régions de la planète riches en biodiversité. Ce programme est venu au Chiapas car dans cette région d'Amérique, les conditions géologiques ont permis la naissance d'une grande biodiversité. Cette grande diversité d'espèces, qui se développe tout au long de l'année, s'associe à une grande diversité culturelle, qui est représentée par les peuples et les communautés indigènes qui habitent cette région. C'est exactement ce que recherche l'ICBG, un pont entre le savoir traditionnel et les cultures qui permettent immédiatement l'identification de plantes utiles pour l'industrie des biotechnologies. Ce programme ne s'est pas développé qu'au Chiapas. On le trouve aujourd'hui au Cameroun, au Nigeria, en Inde, au Vietnam, au Laos et au Pérou. Au Pérou, par exemple, les résultats de ces recherches ont été achetés par l'entreprise Monsanto. En Afrique, c'est l'armée américaine qui achète les résultats. Et cela devient des secrets militaires. Les médecins traditionnels d'Afrique ont raconté que les plantes qui étaient recherchées étaient des plantes vénéneuses et très toxiques. Et donc, on peut aussi se demander quel sera l'usage militaire de ces plantes. Quand ils sont venus, ils ont monté tout un show de 40 minutes où ils parlaient de tous les avantages du programme ICBG. Ils ne parlaient que d'agriculture écologique, de biodiversité et d'une bourse de 2,5 millions de dollars. Nous avons mené une enquête poussée sur ce projet. Et c'est à ce moment qu'on a commencé à découvrir les pièges. Premièrement, c'était un programme de santé du gouvernement des États-Unis, ce que nous ne savions pas. Deuxièmement, il est apparu qu'il s'agissait d'un programme qui ciblait des maladies des pays développés et non des maladies locales, comme il avait été dit. De plus, le contrat que nous devions signer était en grande partie en anglais. Dans la partie en espagnol, tout correspondait avec les règles officielles de la loi locale et environnementale. Mais nous avons fait traduire la partie en anglais. Et nous avons découvert que cet accord était régi par les lois des États-Unis, ce qui est totalement illégal au Mexique.
Mario González Espinoza, qui coordonne le centre de recherche Ecosur pour le Chiapas, s'explique sur le programme ICBG dont il est le partenaire local.
Je peux affirmer avec beaucoup de fierté que de tous les projets ICBG qui sont financés dans le monde, l'ICBG Maya du Chiapas présentait un schéma très novateur, mais pas suffisamment peut-être. La participation des communautés et la répartition des bénéfices étaient bien plus avancées que dans des projets similaires sur d'autres régions, qui pourtant n'ont pas rencontré de résistance et se développent actuellement sans problème. C'était une excellente opportunité pour faire des essais. Aujourd'hui, nous serions à la fin de ce projet et dans une situation très différente pour décider du développement de ce projet ou pour lancer de nouveaux programmes. Et ce n'est pas le cas. On a laissé passer des opportunités. Il aurait été préférable de les laisser faire plutôt que d'avoir tout suspendu. Mais nous avons respecté la volonté des groupes qui s'y sont opposés et nous avons décidé de nous retirer. Mais je crois que ce projet était une première et une excellente opportunité pour explorer de nouvelles pistes de collaboration. Nous savons que nous devons faire de nouvelles recherches, mais nous n'avons fait aucun progrès. Je crois qu'au final, nous avons tout perdu.
Conclusion d'André Aubry et de Don Antonio, l'apothicaire traditionnel.
Tout le discours écologique de conservation internationale ou d'autres du même genre n'est pas la conservation, mais la préservation d'une réserve pour le pillage. C'est-à-dire, ça va être de nouveau une économie extractive de la diversité végétale. Et quand ça aurait été écumé, ben on descend plus bas, on va au Nicaragua, on va en Amazonie, enfin l'Amazonie, ce qu'il en reste. Non. C'est au point que la réserve biologique de la biosphère de Monte Sassoules, là, on laisse la voiture d'un côté de la rivière, on prend la pirogue pour passer de l'autre côté, on passe au milieu des crocodiles, on arrive dans la réserve, et il y a un grand écriteau qui dit Ford Motor Company. Tous les travailleurs de conservation internationale sont américains. C'est la fondation Ford, non ? Qui est prestigieuse, non ? Mais qui a ses objectifs, ses buts et ses bénéficiaires. Et alors ceux-là sont installés. Mais il faut vider les populations qui étaient là, non ? Et qui, en fait, sont les créateurs de la selva.
Qu'arriverait-il si les multinationales, comme elles souhaitent le faire, déposaient des brevets sur toutes les plantes que vous utilisez ?
Si nous, nous acceptons le brevetage et la propriété intellectuelle en tant que fils, alors que nos grands-parents ont transmis ce savoir à nos parents, que nous avons reçu en tant qu'enfants, alors nous, qu'allons-nous laisser à nos enfants ? Tout ce savoir s'est construit génération après génération. Si une entreprise ou un laboratoire dépose un brevet, il nous faudra demander la permission pour utiliser les plantes parce qu'ils se la seront appropriées et c'est ce que nous refusons en tant que médecins indigènes.
Nous, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous manquons de moyens économiques, de technologies, de formation pour que les indigènes deviennent des biologistes, des chercheurs et que ces recherches se fassent ici, pour qu'il y ait un véritable développement régional. Nous ne voulons pas breveter. Si nous découvrons des médicaments, ils pourront être accessibles à tout le monde, aux riches et aux pauvres. C'est ça la différence entre la bioprospection qu'ils font eux et ce que nous, nous ferions.
Et la bioprospection que faríamos nosotros.
Combien de millions de dollars gagnent les entreprises ? Alors qu'ici, il y a des communautés qui n'ont même pas d'eau, que les maisons sont en bois, que les gens meurent de maladies, de diarrhées ou d'infections, et qu'il n'y a pas de services de santé. Pourquoi les entreprises transnationales n'installent-elles pas d'importants systèmes d'accès à l'eau potable avec ces millions de dollars ? Elles donnent juste un peu, quelques machettes ou des petits projets. Mais ce ne sont que des miettes. Elles gardent 99,9% des bénéfices, alors que dans toutes les communautés, on meurt de pauvreté, dans toute l'Amérique latine.
Fin de ce reportage d'Alain de Valpo sur la biopiraterie. Toute l'équipe, Simon de Creuse et Arnaud Jouve, toujours joignable sur fréquence.terre@rfi.fr. Vous salue et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même fréquence, même planète, même heure.